Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Bonjour, ici Elisabeth Antebi qui, dans la rubrique Au fil des pages, reçoit Florence Noiville pour un superbe petit livre, je veux dire un grand livre, mais qui compte peu de pages, qui ne fait pas mal aux pieds quand il tombe sur votre pied, comme disait Cocteau. Donc Florence Noiville vient de publier La Donation chez Stock, qui est un très beau livre dont nous allons parler. Bonjour Florence Noiville.
Bonjour.
Alors, tout vous prédisposait à être quelqu'un d'autre, puisque, comme chacun sait, vous avez fait des études de Sciences Po et HEC. Avant d'écrire, j'aurais voulu vous demander si c'est un hasard, si la donation commence par un notaire.
Je ne crois pas tellement au hasard. On parlait de Singer tout à l'heure, à qui j'ai consacré une biographie. Il disait « le hasard, pour moi, ce n'est pas un mot très cachère ». Donc je crois pas tellement au hasard, je pense que derrière Sciences Po et HEC, il y avait le désir d'être un bon élève qui fait plaisir autour de soi et pas un désir profond des choses que je voulais très intimement faire. Et ce que j'avais très intimement envie de faire, c'était bien sûr un métier qui gravite autour de l'écriture. Alors j'y suis arrivée par petits pas, par le journalisme d'abord, puis par l'écriture pour enfants, puis par ce premier roman.
Par le journalisme déjà d'enfant, et si j'insiste là-dessus, c'est que peut-être jusqu'à aujourd'hui, mais ça nous le verrons, peut-être vous n'êtes pas d'accord, il semblerait que vous abordiez le monde par le prisme des enfants.
Oui, ou plutôt par celui de la transmission, c'est-à-dire ça vraiment, c'était cette idée de continuité, de pérennité, de relais qui passe de main en main. Chez moi, quelque chose de fondamental, et on le retrouve, et là encore, ça n'est pas un hasard, au cœur de la problématique de tous mes livres.
Alors, si je parlais du notaire, c'est que vous partez des mots, comme un écrivain d'ailleurs le fait, et comme nous le faisons souvent, parce que tout ça part d'une donation, en effet, une véritable donation chez un notaire, où des parents font une donation officielle à deux jeunes filles.
Voilà, l'histoire est très simple au fond. Voilà. C'est une jeune femme, plutôt d'ailleurs, qui doit se rendre en province.
C'est vrai, elle a des enfants, donc c'est une
pour
jeune
une donation
femme.
Chez un notaire. Donc ça pourrait être 24 heures ou 48 heures de la vie d'une femme. Il faut juste prendre le train et faire un aller-retour rapide. C'est quelque chose qui promet d'être une petite cérémonie juridique sans grandes conséquences. Et puis, au fond, en fait, ça devient une espèce de révélateur de quelque chose qui va faire basculer sa vie et le regard qu'elle porte à posteriori. Sur sa vie.
Alors, vous partez des mots, je le disais, et vous dites, par exemple, le notaire vous explique un tas de trucs. Il vous parle de réconciliation entre l'usufruit et la nue propriété, c'est-à-dire que vos parents seront morts, pour le traduire en langage courant. Ensuite, vous dites, et pourquoi fallait-il que la jouissance de ma sœur et de moi commença précisément à compter de ce jour ? Et plus loin, vous dites aussi, brusquement, c'est dans une étude de notaire que j'ai cru tout comprendre, à l'aune de ce qu'il appelait les abandonnements et des saisissements nécessaires pour devenir nu propriétaire.
Oui, je crois que vous avez raison d'insister sur l'importance des mots, mais peut-être peut-on dire deux mots précisément de l'histoire pour que nos auditeurs comprennent bien. Donc cette jeune femme se rend en province pour une donation, elle est là dans l'étude du notaire avec ses parents qu'elle observe, qui vieillissent un peu, avec sa sœur, etc. Et puis peu à peu, le notaire lit l'acte avec dans les termes juridiques que vous venez d'évoquer, et puis son esprit commence à gambader un peu. Au fond, elle décroche complètement et elle revoit son passé lui remonter par bouffées. C'est pour ça qu'il y a cette phrase, certains revoient leur vie défiler à l'approche de la mort, d'autres dans un cabinet d'analyste, et brusquement c'est dans une étude de notaire que j'ai cru tout comprendre. Et ce qu'elle croit comprendre, ce sont des pans entiers de son enfance qui ont été modelés par un événement extérieur qui est en fait la maladie de sa mère. Et cette maladie-là, ça a été un secret de famille pendant longtemps, ça l'est encore, et elle ne met pas de mots dessus, enfin la famille n'a très longtemps pas mis de mots sur cette pathologie. C'était une maladie maniaco-dépressive, une psychose.
Alors n'allez pas trop loin.
Alors, parce que, trop loin.
Oui, parce que si je n'ai pas raconté l'histoire, oui. Et si je vous laisse oui. D'ailleurs la raconter, oui. Parce que c'est votre histoire, enfin c'est votre histoire, je veux dire,
c'est
l'histoire
que
vous avez écrite. Donc je n'aime pas moi raconter les histoires parce que je préfère que l'écrivain le raconte. Mais les écrivains ne racontent pas toujours justement non plus,
oui,
comme chacun sait, parce que si ça n'était que cette histoire, mon Dieu, ça serait une histoire parmi d'autres et un livre parmi d'autres. Or, ce n'est pas un livre parmi d'autres. Parce que, non, ce n'est pas un livre parmi d'autres, parce que comme dans plusieurs de vos ouvrages, d'ailleurs même pour enfants, j'en ai lu quelques-uns à cette occasion, souvent, il apparaît que les choses soient un puzzle. C'est-à-dire qu'on arrive dans un puzzle d'abord très doux, puisque ça commence par la pierre de Touraine. Moi, j'ai beaucoup... parce que c'est un style, évidemment, un écrivain, d'abord, c'est un style. C'est pour ça que je lisais un passage. Non pas pour ce que vous dites, mais pour la manière dont vous l'abordez. Parce que ça n'est pas intéressant de parler des histoires sans parler du style. Parce qu'après tout, le père Goriot, c'est un papa qui est quitté par ses deux filles, qui sont très méchantes, voilà. Bon. Donc, votre histoire, c'est pas non plus aussi simple que le père Goriot. Voilà. Peu à peu, il y a un puzzle, il y a un secret, et alors ce qui est extraordinaire, c'est un regard d'enfant quand même, par une adulte certes, mais c'est quand même un regard d'enfant dans la mesure où les enfants ne comprennent rien.
Absolument.
Sont balancés dans un monde où ils comprennent absolument rien, même si c'est une enfance heureuse sans doute d'ailleurs, et que tout est secret, et que, surtout chez vous il y a un vrai secret, mais qu'au fond tout est secret, et que les secrets sont plusieurs, puisque l'attitude du père du livre, qui a l'air exactement... On a tendance à assimiler à vous-même, parce qu'on s'assimile. Moi j'ai vécu une appropriation du livre, ce qui est signe d'un bon
livre. Il paraît qu'il y a un pouvoir de sincérité très fort à travers ce jeu.
Oui, parce qu'on s'approprie cette histoire qui est au fond l'histoire de beaucoup de gens.
Ce qui
est donc, évidemment, le succès de l'histoire elle-même.
Y compris, je l'ai lu jusqu'à 2h du matin et j'ai pleuré.
Oui, c'est
ça. Des gens qui m'en veulent beaucoup.
Oui, non, moi, je n'ai pas pleuré, j'étais émerveillée. Moi, j'étais émerveillée par d'abord la force des phrases, qui sont très, très simples. C'est très épuré, comme votre pierre de Touraine, quoi. Ça soutient des maisons entières pendant des siècles, mais c'est extrêmement épuré. C'est tout blanc, c'est tout doux, comme vous le dites. C'est soyeux. Le mot soyeux revient à plusieurs reprises. Et vous êtes un peu soyeuse au départ. Et puis, ça devient un peu plus velours par la suite, c'est-à-dire un peu plus rêche. Et puis, on entre dans quelque chose de très inquiétant. Mais comme le monde de l'enfance est. Mm-hmm. C'est-à-dire, ce qui est très, très fort, c'est au fond, est-ce que vous avez vous-même le sentiment d'avoir vécu un puzzle qui, à la fin, on y reviendra. À mon avis, ça finit un peu sec, si j'ose dire, d'une fin pareille. On dira tout à l'heure quelle est la fin, mais ou on ne le dira pas. Mais le suspense continue, quand même, on le sent. Mm-hmm. Donc voilà pourquoi je disais, ça paraît un peu sec de finir comme ça, un peu court jeune homme. Est-ce que vous-même avez eu le sentiment, en écrivant ce livre, que vous commenciez à mettre en place des pièces de puzzle ?
En tout cas, c'est le sentiment net de la narratrice.
Oui.
Pourquoi ? Simplement à cause de ce que vous disiez tout à l'heure très justement, c'est qu'elle commence à trouver des mots. Elle trouve des mots à mettre sur ce secret, sur cette pathologie, sur ce mystère de famille, et des mots qu'elle trouve un petit peu partout finalement. Et c'est ça la jouissance profonde de la narratrice et derrière elle de l'auteur, c'est qu'elle va chercher des mots du vocabulaire juridique à travers l'étude du notaire, et puis des mots du vocabulaire médical et scientifique.
Ferroviaire.
Ferroviaire, enfin tout est bon à prendre, à malaxer, à mêler pour faire quelque chose de personnel, mais qui reste très limpide. Ça, je suis contente que vous l'ayez, puisque effectivement c'est un de mes soucis constants, c'est l'épure.
Mais c'est un peu pour ça, d'ailleurs, je pense que les gens s'approprient ce bouquin, c'est-à-dire qu'ils se mettent dans les blancs. Une des choses les plus difficiles au monde à faire dans le domaine de l'art aussi, d'ailleurs, c'est d'avoir des blancs. Et quand vous dites que c'est les mots, moi je trouve que c'est le premier livre que vous...
Oui, c'est
le premier livre que vous faites, au fond, à ma connaissance, bon, à part le Zinger, qui est une biographie, c'est un peu différent, sans illustration.
Oui.
Parce que vous faites beaucoup de livres pour enfants, ce qu'il faut dire aux lecteurs, aux auditeurs aussi, et aux lecteurs aussi, avec des illustrateurs, dont votre sœur. Hein.
Mais là, les images, elles sont dans les phrases. Et quand je parlais de vocabulaire scientifique ou médical, par exemple, ça m'a beaucoup amusée. Ce sont des choses que les anglo-saxons font très volontiers, plus que nous, je trouve. Des gens comme Ian McEwan, par exemple, qui décrit je sais plus quelle maladie, et qui passe 2 ans dans un service de neurochirurgie à Londres pour... Et il y a là, j'ai l'impression, une espèce de vivier d'images encore brutes, de sens que les écrivains français défrichent moins. Et alors ça, c'était pour moi un terrain...
Et moi, c'est ça qui m'intéressait, parce que précisément, vous dites que vous trouvez les mots, etc., mais les mots vous évoquent un autre puzzle.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il y a le mystère du mot, et pour un écrivain, ce qui est assez étonnant, c'est que le mot ne résout pas l'histoire. Au contraire, le mot ne fait, comme disait Einstein, de la science que reculer le mystère.
Absolument. Il y a un endroit que j'aime bien où la petite fille est, comment dirais-je, elle souffre de ce non-dit constant et elle pense, enfin devenue adulte, elle repense à l'histoire de Freud, vous savez, c'est l'histoire d'un petit enfant qui a été puni, enfermé dans un placard, et l'enfant demande qu'on lui parle. Ça ne changera rien, répond l'adulte, tu resteras dans le placard. Et l'enfant dit oui, mais il fait plus clair dans le noir lorsque quelqu'un parle. Donc effectivement, le mot est clair, mais le mot recule le mystère, vous avez parfaitement raison, et ça marche beaucoup par association d'idées, ça je me suis aussi beaucoup amusée. La mère, par exemple, elle est très calée en botanique. Alors elle fait faire un tour de jardin à la fille, elle lui dit, tu vois, ça c'est mes agapantes, elles viennent de ma grand-mère. Alors, toujours cette histoire de transmission. Et puis,
transmission des femmes.
De transmission par les femmes, c'est vrai, en l'occurrence. Ça se passe sur 4 générations de femmes. Et l'agapante, elle fait penser à rhizome. Rhizome fait penser à tout ce qui se passe de façon invisible sous terre, à Deleuze, à la façon dont éventuellement les racines peuvent étouffer la vie et donc la beauté de la plante. Enfin, vous voyez, ça effectivement, je ne sais pas comment le dire, c'est peut-être des morceaux du puzzle qui peu à peu finissent par
oui, un côté matryoshka,
former l'image
quoi.
Dans le tapis ou matryoshka. Mais c'est tout à fait ça. Oui.
Mais alors, vous parlez de ce passage en effet assez frappant. Il y en a un autre, c'est que quand même, Florence Noyville apparaît derrière l'écrivain, bien entendu. Il y a un passage peut-être un peu commun qui est le fameux grand-père qui aime l'Antiquité. Alors, qui aime l'Antiquité. Et alors, vous choisissez comme auteur, dans l'Antiquité, pour représenter les mères, deux personnages dont on va quand même parler. Parce que là, moi, c'est le passage que j'aimerais lire ou vous faire lire.
Médée et Déméter.
Voilà. Donc, le Médée, je vais le dire très rapidement, ou ouais. Vous le lisez si vous voulez, d'ailleurs.
Non, je vous en prie.
Bon. Dans la salle d'attente, je ne sais pas bien pourquoi, j'ai repensé à Médée égorgeant ses enfants, une scène qui ornait une petite amphore rouge dans la bibliothèque de mes parents. Mon grand-père helléniste l'avait rapporté jadis de fouilles au Capsounion. Enfant, j'allais la regarder en secret. Avais-je déjà en tête confusément cette idée de répétition implacable ? Et ça suit avec le film qui est guère mieux de Bergman, Sonate d'automne.
Guère mieux, mais extrêmement poignant et chef-d'œuvre.
Mais bien entendu. Et alors, vous dites, je dois avoir encore, à propos du film de Bergman, qui est l'histoire d'une mère et d'une fille, d'une mère pianiste sublime et d'une fille pleine de complexes par cette mère pianiste, je dois avoir encore quelque part le petit carnet à élastique où j'avais soigneusement noté cette phrase. Une mère et une fille, quelle horrible et affreuse combinaison de désarroi, de sentiments et de destruction. Tout est possible au nom de la sollicitude, de l'affection, de l'amour. La faille de la mère sera la faille de la fille. Les manques de la mère, c'est la fille qui devra les payer. Vous étiez bien jeune. Hein ? Le malheur de la mère sera le malheur de la fille. C'est comme si on ne coupait jamais le cordon ombilical.
Ouais, ça, c'est une étape de sa réflexion, hein, cette narratrice. Hein. On ne va pas dire la fin, mais...
Non, c'est la donation d'anation, vous le dites à un moment donné.
Ça évolue beaucoup, oui. Ça, c'est le passage donation d'anation, effectivement, avec un jeu de mots facile. Et c'est aussi tout ce qui renvoie, bah, par exemple, au hantise de Kierkegaard, qui lui-même pensait avoir été mordu par le mal et ne voulait pas de descendance, précisément, pour ça. Et puis, j'allais dire, vous verrez, vous savez, mais les lecteurs verront que cette idée chemine et que la donation, finalement, elle est assez... remise en question hein, jusqu'à la fin qui est plutôt...
Oui, elle est remise en question quand vous avez vous-même... Quand l'auteur... Excusez-moi, mais on a tendance à dire vous, on a tendance à dire je. C'est très personnalisé tout d'un coup cette lecture. On ne sait pas pourquoi, donc excusez-moi de cette indiscrétion, parce que c'est pas vrai. C'est pas vous non plus, bien entendu.
Non, il y a un substrat, comme toujours, mais il y a beaucoup de recherches et beaucoup
d'histoires. On le sent. Et cette damnation est remise en cause, semble-t-il, quand l'auteur a des enfants. Mm-hmm. Parce que là, tout d'un coup, il y a un jeu de miroir qui fait que tout d'un coup, est-ce qu'on transmet la donation ou est-ce qu'on coupe le cordon ?
Oui, puis simplement, on se voit d'une autre façon puisque on est, ou la narratrice est à son tour mère et qu'elle voit bien que loin d'être une mère infaillible, elle reproduit des choses qu'elle a elle-même stigmatisées avant. Et alors surtout, elle se comprend mieux, elle comprend mieux la mère, elle comprend mieux puisqu'elle a mis des mots dessus, la maladie de la mère. Et elle se dit qu'au fond, ben voilà, dans l'histoire, alors il y a un moment où elle cherche sur Internet les grands PMD de l'histoire.
C'est... Alors elle, PMD, il faut expliquer
PMD,
ce que c'est.
C'est donc la psychose maniaco-dépressive, puisqu'elle elle a cru comprendre à partir de ses recherches que sa mère souffrait de ça, et qu'effectivement, il y a une composante héréditaire qui semble maintenant avérée, même si ça n'est pas le seul facteur, bien entendu. Et donc, elle se dit au fond, donc il y a tout ce cheminement vers la réconciliation avec la maladie, avec la mère et avec elle-même. Au fond, c'est comment s'accepter et comment faire aussi que ce gène-là, si gène il y a, si on peut l'appeler comme ça un peu rapidement gène de la mélancolie, j'imagine que si des médecins nous écoutent, c'est moins simple que ça, mais quand même, ce gène de la mélancolie, bah, puisqu'il touchait, je ne sais pas, Andersen, Van Gogh, Kierkegaard, il y a peut-être du bon à en tirer, parce que comme on sait, la mélancolie, ça a à voir avec la sensibilité, la créativité, etc. Et peu à peu, elle en vient à mieux s'accepter et à mieux s'aimer. Voilà.
Nous avons parlé déjà de la donation d'anation, mais il y a une toute autre donation, filiation, transmission, qui est celle de la vie elle-même, puisque la mère du livre, qui est quand même le personnage au fond le plus important, enfin que moi j'ai ressenti, peut-être ça n'est pas votre sentiment, mais ça après tout je suis lecteur.
Si, non, mais ça m'intéresse beaucoup.
Je suis lecteur, j'ai le droit de ressentir quelque chose.
Absolument.
Donc la mère qui est donc sans doute l'un des personnages, enfin le personnage le plus important, elle aime le beau, elle aime l'art. Elle aime la beauté, elle transmet la beauté, ce qui n'est pas rien. Alors, vous le dites un peu rapidement, mais au fond, ben, c'est un terreau intéressant. Et la deuxième chose, bien sûr, elle est un peu obsessionnelle avec ses plantes, mais elle les aime. Et elle, les plantes, c'est la vie, elle les arrose. Et au moment de la donation, vous dites quelque part, je n'ai pas retrouvé l'endroit, mais vous vous en souvenez sans doute, qu'elle a l'air tout d'un coup soulagée et que vous-même avez moins peur. Plutôt l'héroïne a moins peur, et que la mère s'écrit tout d'un coup, passe encore de bâtir, mais planter à cet âge.
Oui, ça c'est un vers de La Fontaine,
hein,
qui sous-entend qu'elle ne pourra jamais se passer, comme vous le disiez, de planter, de repiquer, d'arroser, c'est sa passion. Pourquoi c'est sa passion? Parce qu'effectivement, le jardin, c'est un lieu de beauté, d'harmonie, d'apaisement. Et dans le roman, on voit bien comment elle construit de la beauté pour se protéger, au fond. La mélancolie la pousserait à voir tout de façon tragique, à exacerber le sentiment tragique de la vie. Et elle se met autour d'elle une espèce de cocon de beauté, comme un rempart qu'elle érige, comme ça, avec beaucoup d'énergie. Parce qu'il y a chez ces gens mélancoliques ou chez ces gens maniaco-dépressifs quelque chose de très touchant, je trouve. C'est l'énergie folle qu'ils mettent à cacher qu'ils sont pas bien, que ça va pas. Alors que bien sûr, comme dans le livre, très souvent, ils ont tout. Ils sont beaux, intelligents, cultivés, ils ont bien réussi. Et puis, il y a une espèce de fêlure très très profonde qui fait que, comme disait Sylvia Plath, cette américaine très talentueuse, qui s'est tuée, qui souffrait de la même chose, le socle ne tient pas, le centre ne tient pas. C'est-à-dire qu'on n'est jamais à l'abri d'un effondrement.
Et les enfants ressentent finalement ce jardin quelque part comme un rempart justement de
absolument,
la mère.
Absolument.
Ils se sentent peut-être exclus aussi du jardin, non?
Ah oui, ou alors, mais ça, il y a encore plusieurs façons de le lire, ou alors ils lui en savent gré d'avoir su transmettre à côté du jeune mélancolique celui de la beauté, celui du talent de faire de la beauté. Voilà.
Oui, parce que le jardin quand même revient dans Je cherche les clés du paradis.
Oui, c'est vrai.
Vous avez écrit un petit livre pour la jeunesse qui, il faut dire d'ailleurs que je crois que l'éducation nationale a repris tous vos livres pour la jeunesse et qu'on lit en classe, ce qui est formidable. Ce qui est,
un grand honneur. Oui.
Ce qui est à la fois, oui, un grand plaisir, certainement pour les enfants aussi. Vous l'avez publié, d'ailleurs c'est intéressant, sous le nom de votre nom de femme mariée, Florence Hirsch. Pourquoi de femme mariée? Puisque pourquoi pas Noiville, comme les autres?
Parce que c'était l'histoire de mon mari, Martin Hirsch, qui a été élevé dans cette maison. Et donc, c'est l'histoire d'une maison de famille perdue. Donc là encore, c'est un socle qui vacille sur ses bases.
Et donc, c'est le jardin, c'est à partir du jardin que les enfants se rassurent.
Mais oui, parce que, si vous voulez, dans ce livre, oui, mais encore plus dans la donation, il y a vraiment deux pôles ou deux tensions contradictoires. Il y a la pulsion de mélancolie et donc de mort. Je raconte à un moment à quel point les premières réactions de la mère sont décisives pour ce que va être le psychisme de l'enfant. Mais ça, on le sait tous. Un nourrisson de 6 semaines, paraît-il, sourit, écarquille les yeux, tente de se redresser dans son fauteuil si sa mère est bien dans sa peau, et le même nourrisson avec une mère déprimée s'affaisse dans son transat à moitié endormi. À mon avis, il se fascine là des choses.
Bien sûr, puisqu'on a étudié les bombardements de Londres, vous le savez peut-être, par les mères. On a étudié les enfants à partir de 3 mois. Et il semblerait que les mères affolées
transmettent la peur.
Transmettent
et puis alors, donc là, il y a cette transmission-là. Puis l'autre transmission, c'est celle de la vie incarnée par le jardin. Parce que je pense que souvent, les mélancoliques sont des amoureux fous de la vie, mais ils sont eux-mêmes pénétrés de cette espèce de désespoir qui veut qu'ils voient bien qu'ils n'arrivent pas à la saisir autant qu'ils voudraient, à être dedans, voilà, juste dedans, maintenant. Et pas à se projeter dans un demain inquiétant, par exemple, ou dans un hier nostalgique. Juste à carpe le diem, si j'ose dire.
Alors, il y a aussi, dans vos connotations, il y a une lettre qui revient tout le temps, souvent, c'est L, le L. Est-ce que vous avez remarqué ça?
Non, pas du tout. La lettre
oui.
L.
Oui,
la lettre j'aime bien les labiales, c'est beau, c'est fluide, ça coule.
Oui, mais parce que, alors donc c'est L, je suppose.
Oui.
Et l'aile qui, qui vous fait voler. Mais à plusieurs reprises, vous surnommez les gens que vous ne nommez pas L, point de suspension. Je le signale parce que vous voyez des choses même, ce qui est intéressant pour nos auditeurs, qui échappent aux écrivains.
Et L, A-I-L-E, puisque le fait de voler n'est pas non plus étranger au livre. Mais ça, on ne va pas tout dévoiler quand même.
Oui, absolument. Oui, il y a quelque chose d'Icare dans la donation aussi.
Non, quand vous disiez que la fin était abrupte, je l'ai voulu comme ça, parce qu'en fait, il y a certes une réconciliation à la fin, une impression d'harmonie, mais comme souvent, ce genre de choses peut être une impression trompeuse. Mais voilà, je n'en dis pas plus.
Oui, mais l'héroïne, si on pense que l'héroïne est la fille et non plus la mère à ce moment-là, l'héroïne de la fin, puisque c'est elle qui reste, a disparu depuis un moment, laisse la place aux enfants et à la mère. Là, il y a une tête. J'ai fait assez de compliments pour dire que là, il y a une espèce de... Enfin, puis c'est pas bien ou mal d'ailleurs, mais il y a une espèce de queue de poisson de la fin qui laisse quand même le lecteur, moi je trouve, mais c'est bien aussi, face à l'énigme, c'est-à-dire face au puzzle qui n'est pas tout à fait terminé.
Parce que je crois qu'il ne le sera jamais, en fait. Et la fin suggère qu'on peut se tromper dans l'analyse. Mais bon.
Oui, puis vous savez que c'est le tzimtzum kabbaliste, c'est-à-dire Dieu se retire de la création du monde pour laisser la place à l'homme. Donc l'écrivain aussi se retire de la création pour laisser la place.
Je vous laisse cette interprétation qui, dans ma bouche, serait un peu prétentieuse.
Bon, bah pour quelqu'un qui a fréquenté Singer, on peut évoquer ça, qui aurait ravi Singer.
C'est vrai, ça l'aurait ravi, absolument. Vous même que cette vie du passé qui subsiste en nous et qui passe à chaque page, qui passe par toutes les fibres, par les plantes aussi, la guirlande des grands-mères, etc. Donc la vie du passé, invisible, mystérieuse, mais qui est toujours là au fond, impalpable, ça c'est effectivement un trait d'union entre...
Singer et vous.
Par exemple,
oui. Oui, par exemple. Il y a une dernière chose, c'est que vous avez donc un deuxième personnage mythologique. J'y tiens. Je vais vous demander de lire le paragraphe.
Brutalement, c'était évident. Ma mère et moi étions Déméter et Perséphone, sauf que c'était Déméter qui passait certains mois sous terre. Dans ces cas-là, Perséphone faisait de son mieux pour l'arracher à l'enfer de la dépression, et que périodiquement, elle revenait à la lumière pour féconder la terre et cultiver son jardin. Perséphone, alors, trouvait auprès d'elle des trésors enfouis. En réalité, mère et fille se cherchaient sans cesse. Elles se tenaient mutuellement.
Oui, donc est-ce que la fille finit par lâcher?
Ça, c'est au lecteur de le dire. Mais je pense, moi, que la fille finit par lâcher prise. Et en lâchant prise, elle tombe pas dans le vide. Elle se ressaisit, elle redevient elle-même. Quand je disais qu'elle se réconcilie avec son moi profond... Voilà, je pense que c'est quand même un cri d'amour vers la mère et vers elle-même. Retrouver un lien simple qui nous unit, pas seulement à la nature, au jardin, mais aux êtres qu'on aime et à qui on a été conduit à en vouloir. Parce qu'à un moment, quand on était petit, on pensait qu'ils vous ont abandonné et ils étaient juste malades.
Alors, pour tous nos auditeurs et nos lecteurs, qui sont de grands enfants encore, toujours et partout, et qui ont bien besoin de ce monde invisible, je recommande, mais alors beaucoup, la donation de Florence Noiville chez Stock, parce que ça ne concerne pas que les mères et les filles. Il y a aussi un père qui existe, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est très intéressant. Il y a une force masculine qui est encore cachée, mais qui est là, en coulisses. Et il y a beaucoup d'autres paramètres dans ce livre qui sont très intéressants. La donation, Florence Noiville chez Stock. Merci.
Merci à vous.